Oui, je suis de l'église évangélique baptiste de Colombes. Je vous salue de la part des frères et sœurs là-bas, qui sont aussi réunis à cette heure-là. Et c'est aussi l'heure de la prédication là-bas. Je me suis converti quand j'étais jeune. Ça ne veut pas dire que j'ai tout appris. Il y a eu bien des expériences depuis. Et puis, grâce à Dieu, je suis encore là. Dieu m'a protégé à bien des égards. Autant sur la route que spirituellement. La parole de Dieu, ça a été dit tout à l'heure, c'est bien de la lire, et je recommande à tous de prendre la bonne habitude de lire la parole, si possible le matin, au lever, de passer du temps à lire les Écritures, comme je le dis, et je l'ai mis en pratique aussi. Il y a eu des moments où j'ai lu un peu moins la parole, et puis à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que je m'y remette. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, je la lisais beaucoup. Puis après, quand il y a eu les enfants, on était un peu fatigués. Donc, j'avais un peu ralenti. Et puis, j'ai repris. Et puis, comme on dit, on mange et on se lave chaque jour. Lire la parole, c'est se nourrir. Nourrir de la nourriture spirituelle et aussi se laver. On a besoin de se laver parce qu'on se salit tous les jours. On se salit parce qu'on est dans un monde qui est sale, et puis notre cœur naturel aussi est sale. D'ailleurs, nous allons l'évoquer aussi dans ce que nous lirons. Peut-être baisser un peu le micro, qui est plus fort. Nous allons lire donc l'Écriture, nous en parlons. Dans la première épître de Pierre, nous lirons d'abord au premier chapitre, les versets 10 à 16. Les prophètes qui ont prophétisé, donc 1 Pierre 1, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints car je suis saint ». On va poursuivre au chapitre suivant, au chapitre 2 donc de Pierre, les versets 11 à 17. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensé, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et nous lirons dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, des versets que vous connaissez certainement bien, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est en lisant, en méditant dans la première épître de Pierre que j'ai eu que j'ai été inspiré pour ce message. Dans 1 Pierre 2, au verset 16, il y a un certain nombre d'indications qui sont données, et il est dit « agissant comme des serviteurs de Dieu ». C'est être serviteur de Dieu. Servir, ce n'est pas toujours ce que l'homme recherche, il aime bien être servi, mais la parole de Dieu nous parle de service, et Jésus, on l'a lu dans Philippiens, est venu comme serviteur. L'apôtre Pierre, donnait des conseils, donnait des recommandations importantes, c'était pour le témoignage. Serviteur de Dieu, pour rendre un témoignage dans le monde, on rend témoignage, on fait les offrandes à Dieu, c'est aussi par notre vie, offrir sa vie comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est une des indications qu'il donne, l'apôtre Pierre, dans son épître. Il dit aussi plus haut, il parle enfant de Dieu. Pour être serviteur de Dieu, il faut d'abord être enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, ça commence par la conversion. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est la première chose qui est importante dans une vie. Donc savoir qui est Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est pas donner sa vie à un inconnu, c'est savoir ce qu'il a fait pour nous. Et quand on est au contact de Christ, on comprend ce que nous sommes, la vision qu'il a de nous-mêmes. Nous pouvons avoir notre propre vision de nous-mêmes. Moi, je suis ceci, je suis cela. Et puis Dieu nous parle et dit, voilà ce que vous êtes. Et la parole de Jésus, c'était pas des paroles tendres, comme celle de Jean-Baptiste, c'était repentez-vous. Et ça voulait dire, vous êtes des pécheurs. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu pour faire notre louange, il est venu pour nous sauver. On a parlé du salut tout à l'heure dans l'introduction. C'est le centre de toute l'Écriture, la venue de Jésus pour sauver des pécheurs. La Bible n'est pas là pour nous flatter. Elle n'est pas là non plus pour nous décourager, pour nous mettre des claques ou des choses comme ça. Elle est là pour nous encourager et donner le sens aussi à notre vie. On vit dans un monde qui ne sait pas où il va. Les événements un peu aléatoires qu'on rencontre actuellement nous amènent à réfléchir. Mais en fait, de toute façon, l'homme, quel qu'il soit, n'a jamais pu contrôler ce qui se passait. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et parfois, on a l'impression que Dieu laisse tout faire. Même les prophètes se plaignaient à Dieu, que fais-tu ? Parfois, tu laisses faire. Et puis, ça nous encourage aussi, parce que nous, on vit dans un monde où on ne peut pas agir. On n'est pas là pour faire de la politique, de toute façon, même si on voit les choses. On est là pour annoncer la parole, une fois qu'on est chrétien. Le salut, c'est la chose centrale. Prendre conscience qu'on est perdu à cause de nos péchés. Dieu ne pardonne pas comme ça les péchés. Dieu n'est pas pardonneur. Dans l'islam, Dieu est pardonneur. J'avais un collègue qui disait, Dieu est pardonneur, il faut bien qu'il ait quelque chose à pardonner. Non, pas du tout. Le péché met Dieu en colère. Et dans l'islam, il y a des balances. Si on fait des bonnes actions, ça va compenser les mauvaises. Il n'en est pas ainsi dans la Bible. Un seul péché démontre qu'on est pécheur et Dieu ne va pas faire rentrer des pécheurs dans son ciel. Il veut des gens qui soient purifiés. Et on sait que Jésus est venu pour nous purifier. Il nous a purifiés quand on se donne à lui, il nous purifie de nos péchés et nous nous purifions aussi chaque jour. C'est pas Dieu nous a pardonné et puis maintenant je fais ce que je veux. D'ailleurs, quand vous lisez cette première épître de Pierre, il y a plein de recommandations qui sont faites et qui rappellent que nous sommes des pécheurs pardonnés, mais nous restons pécheurs. Mais l'œuvre de Dieu se fait dans nos cœurs et on devient sensible. Dieu ne veut que nous soyons sensibles, que nous ayons une vision changée. Avant, nous vivions pour nous-mêmes, maintenant, nous vivons pour le Seigneur. Le salut, ça commence donc au pied de la croix. Comprendre que Jésus est mort pour des hommes pécheurs. J'ai pas tout compris quand j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, et puis après, le reste, c'est venu aussi avec le temps. On commet des erreurs, mais le Seigneur est avec nous. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Connaître Dieu. Et Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Il y a une manière de vivre qui est vaine. On vit dans un monde qui est vain. Alors, on peut penser aux portables, tout le monde est sur ses portables maintenant dans la rue. Ça m'arrive de croiser des jeunes que je ne connais pas, je leur dis, mais arrêtez sur vos portables, ça suffit, quoi. Alors, il faut un grand sourire, voilà. Mais la vaine manière de vivre, on en parle à l'époque de Jésus. Il n'y avait pas besoin d'avoir les portables pour passer son temps dans des choses ridicules. Ridicule et parfois dramatique, quand vous lisez l'histoire de Rome, vous pouvez voir qu'il y avait des amusements qui étaient affreux à l'époque de Rome. Dans les stades, dans les arènes, qu'est-ce qui se passait? Je vous laisse regarder. C'était l'horreur. Ça plaisait aux gens. Le cœur de l'homme n'a pas changé depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Il y a des pièges qui peuvent varier, les formes peuvent varier avec le temps, mais le cœur de l'homme reste le même, avec des désirs qui sont vains par nature. Et la Bible, elle nous dit, ne travaillez pas pour ce qui est vain, travaillez pour le salut. Et le Seigneur Jésus est venu sur la terre, non pas de façon à frapper les regards. C'est le prophète Ésaïe qui le dit, dans le chapitre 53, il n'avait rien pour nous plaire. Pour nous plaire, c'est-à-dire plaire à ce que l'homme aime bien. Jésus n'est pas venu avec des danses, il n'est pas venu avec de l'argent. Il y a des gens qui prêchent l'évangile de la prospérité. Non, Jésus n'est pas venu pour cela. Mais sur le fond, quand on comprend ce que Jésus a fait, ça nous plaît. Une fois qu'on a accepter l'évangile, c'est ça qui nous plaît, l'évangile, que Jésus n'est pas venu comme les hommes viennent pour frapper les regards. Jésus est venu pour parler à nos cœurs. Nous avons un cœur et Dieu veut que nous soyons sensibles. Mais par nature, nous sommes insensibles. Ce qui est important, c'est donc de se placer devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout quand on se convertit, mais de dire « Seigneur, prends-moi », simplement. Pardonne-moi, prends-moi. Après, chacun parle avec Dieu. On peut se faire aider peut-être, mais chacun doit avoir une expérience personnelle. On ne se convertit pas pour quelqu'un d'autre. Et dans la vie, si on tombe, eh bien le Seigneur nous relèvera. L'adversaire peut nous accuser, mais le Seigneur est avec nous. L'apôtre Pierre dit au début de sa lettre, on ne l'a pas lu, « Élu selon la préscience de Dieu le Père ». Élu, choisi. Dieu nous parle. Dieu nous parle d'une façon, Dieu nous parle d'une autre. On regarde les événements, est-ce que ça nous amène, on écoute la radio, etc. Ça peut nous amener à réfléchir, à rentrer en nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus, il nous donne l'orientation. Il ne fait pas que poser le problème, il donne la solution. Et il y a une solution en tout cas qui est claire dans la Bible, c'est on ne peut pas changer le monde, mais soi-même, on peut changer. Je ne peux pas changer les autres, mais moi, je dois changer. Alors changer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, suivre les autres, etc. Ça veut dire changer aussi d'attitude dans son cœur et avoir un objectif qui est clair. Le salut, c'est donc déjà comprendre qu'on est perdu et ensuite sauver. passer de la mort éternelle à la vie éternelle, abandonner la vaine manière de vivre. Élu, donc, c'est choisi, choisi par Dieu, choisi avec un but, et ce but, c'est l'obéissance. Donc, Pierre dira, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. C'est intéressant d'ailleurs ce passage, j'aime bien, parce que ça nous montre que Pierre, il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. Ça veut dire quoi? Ben, une fois qu'on est chrétien, on a encore des convoitises. Un chrétien qui dit, moi, je n'ai plus de convoitises, il y a peut-être plus certaines convoitises. Heureusement, parfois, il y a quand même des choses qui se calment. Mais on a toujours des risques. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Là, il parle des convoitises anciennes. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. On n'est pas des automates. Il faut réfléchir. Ah, t'as envie des choses que t'avais envie avant. Bon, il y a un problème. Il y a des choses qui sont normales dans la vie. Il y a des choses, elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Les convoitises dans la parole, c'est les mauvaises convoitises, bien entendu. Convoiter, le terme en lui-même, n'est pas élogieux dans la parole. Donc, comme des enfants obéissants. Enfant, c'est un privilège. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Dans l'islam, je parle de l'islam parce qu'on prêche pas mal à des musulmans sur les places, qu'on fait du porte-à-porte aussi. Et c'est pas toujours évident, d'ailleurs, on apprend, il faut savoir écouter aussi. Il y a des choses qui parfois nous font bondir. Dans l'islam, Dieu n'a pas d'enfant. Bien, dans l'évangile, d'abord Jésus est le fils de Dieu, nous prêchons l'évangile, selon Marc, commence par l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. C'est le fils éternel, Jésus n'est pas une créature, il est le créateur, il est la parole faite chair. La parole n'est pas créée, c'est la parole qui a créé, comme ça a été rappelé aussi, Dieu dit. Et le Seigneur Jésus, donc, est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Il est la parole faite chair, serviteur de Dieu. Il est venu en étant obéissant. Il est venu pour nous changer. Nous sommes élus selon la préscience de Dieu, pour être obéissant, et donc on change de statut. Quand on devient obéissant, on devient étranger et voyageur sur la terre. C'est-à-dire que, c'est Pierre, il le dit au début de l'Épître également, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, et d'autres pays de l'Asie mineure, on va dire, globalement, et puis il dira « étrangers et voyageurs sur la terre » dans le chapitre 2, « étrangers ». Il y a un moment donné où le chrétien, ayant changé de statut, doit se sentir étranger. Il y a des choses qui ne doivent plus nous attirer, mais nous amener à réfléchir. On est d'un autre peuple. Ça ne veut pas dire, bon, moi j'ai la nationalité française, mais je ne suis pas français d'abord. On est chrétien d'abord, avant tout. Français, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Il y a des privilèges, c'est sûr que par rapport à d'autres pays, il y a des choses qui sont bien en France, mais la France n'est pas un pays parfait. On est là pour annoncer l'évangile, on n'est pas là pour faire la louange de notre pays. On est là pour annoncer l'évangile. L'homme est perdu loin de Dieu et les peuples sont tous sous la puissance du malin, il ne faut pas l'oublier. L'enseignement qui est donné maintenant dans les écoles, si on oblige l'école obligatoire à partir de 3 ans, c'est pour que l'État puisse faire l'éducation des enfants. À une époque, l'éducation nationale s'appelait l'instruction publique. Instruire, c'est une chose, éduquer, ça a une autre nuance. Ça veut dire former aussi des gens qui soient dans les normes républicaines. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. En particulier maintenant avec l'enseignement des LGBT et tout ça, à l'école, on a des parents chrétiens qui savent qu'il y a des problèmes. Et je pense que, sans doute ici, le témoignage des parents est important à ce niveau-là. La vie de la famille, une vie équilibrée, sera importante pour rétablir l'équilibre face à un monde qui se perd. Nous ne sommes pas là pour condamner les pécheurs, il n'y a pas besoin d'avoir commis des crimes affreux pour aller en enfer. Tout homme, par nature, est pécheur. On peut annoncer l'évangile, même à ces gens-là, dans la mesure où ils écoutent, parce qu'ils n'ont pas toujours des oreilles pour entendre. Changement de statut, donc étranger et voyageur sur la terre, et nous avons Dieu pour Père. Notre cité est dans les cieux, nous nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons changé de citoyenneté, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à rendre un bon témoignage au niveau du monde dans lequel on se trouve. Je faisais allusion au fait d'être français. L'apôtre Paul, lui, il était romain et il a utilisé ses droits romains. En particulier, c'est pour ça qu'il a pu témoigner devant César. Ça veut dire, si vous avez des droits en tant que citoyen d'un pays, vous pouvez les utiliser, bien entendu. Ça ne veut pas dire, moi je suis chrétien, puis terminé, le reste, je n'ai rien à faire. Non, l'apôtre Paul nous donne un exemple à ce niveau-là. C'était une parenthèse. Enfants de Dieu, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Le Seigneur Jésus a enseigné la parole. Il a dit de dire Dieu notre Père. Je ne sais pas si chez les Juifs ils utilisent beaucoup cette expression, mais en tout cas le Seigneur Jésus lui l'a annoncé. J'ai écouté des témoignages de personnes juives, elles disaient le Dieu des rabbins n'est pas le Dieu de la Bible, en tout cas. Voilà, c'était une jeune chrétienne qui racontait ça. Elle s'était convertie et elle rendait des témoignages, c'était sur Internet. Et elle voyait une grande différence entre le Dieu des rabbins, qui est un Dieu qui vous surveille pour savoir ce que vous faites le jour du sabbat en particulier, etc., qui vous surveille comme un patron. Et elle dit, mais ça ne collait pas. Et puis quand elle s'est convertie, eh bien, elle a trouvé en Dieu le Père. Et en Jésus, le Frère. Nous sommes appelés à être serviteurs. Dieu a besoin de serviteurs. Je pourrais dire le contraire, Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Et parce que Dieu peut tout faire sans nous, mais Dieu veut le faire avec nous. Nous sommes appelés à être serviteurs de Dieu. Alors servir, ce n'est pas toujours ce qu'on recherche naturellement. On aime bien se reposer, etc. Et puis, là-bas, sorti pour servir. Ce que je vous annonce, ce n'est pas contre vous. C'est ce que vous prêchez ici. Serviteurs de Dieu. La conversion, pourquoi servir? Parce qu'avant, on vivait pour des choses qui n'avaient pas de valeur. Et puis, quand on se convertit, eh bien, on confesse ses péchés, on demande pardon. On est passé de la perdition au salut. Il y avait la perdition de notre âme, mais il y a tout ce qui est perdu avec. Perdition de notre temps aussi, parce qu'on perd son temps dans beaucoup de choses. Vous pouvez avoir... je vous prêche, mais j'ai mes risques aussi. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur que je n'ai pas de risques. J'aime bien les jeux de réflexion, le sudoku et tout ça, mais quand, au bout d'un certain temps, quand on s'aperçoit qu'on y passe trop de temps, on s'aperçoit qu'on fait un jeu, on a envie d'en faire un deuxième, etc. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, je me suis dit, j'arrête, et puis c'est tout, comme ça, je suis tranquille. Et puis, l'envie m'a passé. Il y a une époque, j'ai prié, parce que ce n'était pas des jeux, il n'y avait rien de méchant, c'était des jeux de réflexion. Ils peuvent être pris par le jeu d'échecs ou je ne sais pas trop quoi. J'ai prié pour être délivré parce que je passais trop de temps là-dedans. C'est tout. Mon temps, il appartient aussi au Seigneur. Serviteur de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se détendre. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, venez à l'écart pour vous reposer un petit peu. Il y a des moments où il faut savoir se reposer. Dieu ne nous traite pas... de façon extrême, Dieu sait de ce dont nous avons besoin, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Il y en a, je parlais des jeux, alors il y a les jeux d'argent, c'est des pièges. Il y en a qui commencent à jouer, et des gens qui sont même pas, qui croient pas en Dieu. J'avais entendu une émission, ça fait déjà quelques années, sur Internet, ils priaient pour ne pas jouer pendant une journée, tellement ils étaient addicts. Et à côté du temple où on est, il y a quelqu'un qui jouait, je ne sais plus ce qu'il était, il s'est suicidé à la fin. Il venait jamais au culte, lui, le malheureux. Mais on a appris, il s'est suicidé, il jouait au jeu d'argent. Et il y en a, c'est pas le seul, il y en a beaucoup. On a chacun ses pièges, mais il faut faire attention. Et puis si on est faible, bah, prier, le Seigneur veut bien nous aider. On peut en parler éventuellement à d'autres, à des frères et sœurs, pour prier ensemble. Et puis, on peut remplacer une chose par une autre aussi. Si on a du temps, bah, réfléchir, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit utile ? Utile éventuellement dans sa maison, parce que donner parfois un coup de balai, c'est bien, même pour les messieurs, pour les dames, etc., pour aider leur femme, en disant, c'est ton boulot, c'est pas l'idéal non plus. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent se faire, ça peut, dans le service, dans l'église. Ici, vous avez des bâtiments à entretenir, et ça s'entretient certainement pas tout seul. Chacun peut s'engager. Et puis, il y a dans le témoignage. On n'est pas forcément attiré par le témoignage, mais il faut rendre témoignage. On fait des erreurs quand on témoignage, on n'est pas toujours peut-être équilibré dans ce qu'on dit, mais il faut parler. Il faut parler, je parle des musulmans, bah, il faut leur parler. C'était un frère juif qui avait dit un jour, arrêtez de parler des juifs, parlez aux juifs. Alors pour moi, c'était, ça fait déjà quelques années de ça, ça a été comme une lumière, arrêtez de parler des communistes, parlez aux communistes, arrêtez de parler des musulmans, parlez aux musulmans, et arrêtez de critiquer les gens, parlez-leur, quoi. Annoncez-leur l'évangile, essayez de les faire réfléchir sur le salut. Et puis, parler avec les musulmans, c'est pas toujours évident, mais on y arrive, et puis il y en a qui sont contents. D'ailleurs, il y en a, ils sont plus musulmans. Je discutais, c'était l'année dernière, avec deux jeunes, c'était de l'Afrique du Nord. C'était deux enseignants d'ailleurs, bah, ils étaient là, c'était pendant le ramadan, c'était la Pâque, le ramadan tombait dans cette période-là, bah, ils étaient contents de parler, ils m'ont même pris en photo avec eux, c'était amusant. Ils étaient pas du tout fermés à l'évangile. Et même avec ceux qui sont fermés, parfois c'est un peu dur, vendredi soir on a eu une discussion assez âpre avec un musulman. Je ne sais pas ce qu'il était, est-ce que c'était un imam, je n'ai pas pensé à lui poser la question, mais il disait qu'il n'y avait aucune persécution dans le monde musulman, c'était en France que les musulmans étaient persécutés. J'étais un peu perdu, je dois dire, il fallait le faire. Ça me fait encore réfléchir, mais bon, ça veut dire que quand on va faire de l'évangélisation aussi, on peut prier avant pour avoir l'attitude qui est bonne. Le serviteur, ça veut dire aussi qu'on a changé de maître. Alors le mot serviteur est parfois traduit par esclave, ça dépend des traductions. Le mot esclave est ambigu parce que si on prend l'esclavage au 19e siècle par exemple, au 18e, 19e siècle, on pense à toutes les horreurs. Donc en esclave de Jésus-Christ, c'est pas du tout ça. On peut penser peut-être aussi, ce serait une variante à l'esclavage à l'époque de Rome, c'était les prisonniers de guerre qui étaient souvent esclaves, mais un esclave n'avait pas d'identité humaine, c'était une chose, un esclave dans l'Empire romain. Alors il y avait peut-être des nuances d'un maître à l'autre. Mais serviteur de Christ, ça veut dire que Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ, ça veut dire que nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes ses serviteurs, et nous sommes là pour faire sa volonté. Dieu nous a achetés. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Nous avons été achetés. Il y a eu un prix à payer. Et c'est le Seigneur Jésus qui a payé pour nous. Il est en payant, il devient notre Seigneur. Sauveur et Seigneur. Il y a des gens parfois qui disent que ce qui est important, c'est que Jésus soit notre Sauveur, et puis notre Seigneur. On ne peut pas séparer. Jésus, s'il est le Sauveur, il est le Seigneur. S'il est le Seigneur, il est le Sauveur. D'ailleurs, on peut dire que ça commence plutôt par « Il est le Seigneur, donc le Sauveur ». On a changé de maître. Avant, nous étions esclaves de Satan, en tout cas esclaves de nos propres pensées. Nous étions dirigés par cela. Et Le Seigneur Jésus parle de cela quand il parle d'un homme qui avait été envoyé pour être oint comme roi. Il dit, il y a une délégation qui a été envoyée, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et le Seigneur Jésus parle de cela, nous ne voulons pas qu'il règne. Et nous, en tant que chrétiens, nous voulons que le Seigneur Jésus règne dans nos cœurs. Je veux qu'il règne, oui, dans mon cœur, parce que si le Seigneur Jésus ne règne pas dans mon cœur, ben, c'est la fin pour moi. Dieu, pour le reste, Dieu pourra continuer, mais la vie n'a plus de sens. Et puis Dieu nous a sauvés pour servir. C'est la devise de l'armée du salut, et ça c'est vrai. Être serviteur de Dieu. Je veux qu'il règne. C'est une vision sur l'aveuglement des méchants. Le bonheur des méchants est un problème dans la Bible. Vous voyez, si vous lisez le psaume 73, dans Job aussi, Job se plaint, parce que Job, lui, il est éprouvé parce qu'il est fidèle, et puis il ne sait pas que c'est Satan. Il ne dit pas « Ah, Satan !» Non, Job n'évoque pas Satan. C'est au début qu'il en est parlé de Satan, il pense que c'est Dieu qui l'éprouve. Et il cherche Dieu partout. C'est un livre très encourageant que le livre de Job. Mais dans le psaume 73, il y a aussi un parallèle, c'est Asaph. Il voit le bonheur des méchants. Lui, il sert Dieu et il est dans le malheur. Et les méchants, ils sont heureux. Alors, il se pose des questions. Il dit, mon pied était prêt de fléchir. Il est passé par des moments difficiles. Il réfléchissait. C'était dur. Ben, si vous êtes chrétien, il y a des moments qui seront durs. Il y a des moments où vous direz, mais pourquoi Dieu, il fait rien? Dieu nous fait attendre. La patience, elle fait partie de la vie chrétienne. Dieu fait notre éducation, et puis ben, c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas toujours comme nous aimerions. Psaume 73, c'est un psaume qui est encourageant. Il dit, tu m'as pris par la main. J'allais tomber, tu m'as pris par la main. On est dans l'Ancien Testament, mais il y a une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas un Dieu lointain. Et puis, changer de maître, c'est aussi la raison de notre conversion, c'est de comprendre le drame du péché. Dans le monde actuel s'amuse avec le péché. On fait des films sur Samson et Dalila. Je n'ai pas regardé ces films et je ne les regarderai pas. C'est de la cochonnerie, j'imagine, presque obligatoirement. Comme David avec Bathsheba, si, je ne sais pas s'il y a un film, Samson et Dalila, j'en ai entendu parler. Les gens s'amusent de l'adultère. Les gens s'amusent du mensonge. Et pourtant, quel drame! C'est un drame que le péché. On vit dans un monde où on fait des films sur le péché et les gens regardent cela. Même les meurtres et tout cela, quel plaisir a-t-on à regarder des choses comme cela. Le regard du chrétien doit rester strict à ce niveau-là, doit comprendre qu'on ne peut pas s'amuser avec ça. On a besoin de changer de regard, d'avoir une sensibilité. Le chrétien doit faire d'une façon générale, même en particulier quand on est jeune, mais même quand on est vieux. Souvenez-vous que David, il est tombé quand il était vieux, mais c'était pas. Quand il était jeune, il est resté fidèle, et il est tombé pour des histoires d'adultère, et il est tombé parce qu'il traînait à un moment donné. On vit dans un monde où on risque tous de traîner, eh bien, il faut faire attention. Il y a eu le prix de rachat. C'est à grand prix que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, et dans l'Apocalypse, il est parlé aussi de ceux qu'il a rachetés. Et puis, il y a donc, ça va changer notre regard sur le prochain. Envier les autres, on peut envier parfois ceux qui sont dans le monde. Il y a des choses où ils ont des privilèges. Mais le chrétien, avant tout, même si nous, parfois, nous avons des privilèges, je veux dire, je suis pas malheureux au niveau matériel, Mais se souvenir que Dieu peut reprendre les choses et avoir changé de regard sur le prochain. Le drame, donc, c'est le péché. La loi révèle la nature du cœur de l'homme, c'est bien de lire la loi. Elle nous donne des tas d'idées. Je pense à des passages quand tu verras l'âme de ton ennemi succombant sous la charge, eh bien, n'hésite pas, aide-le à le décharger. C'est l'âme de l'ennemi. Ben, l'idée, c'est de dire, il a des ennuis, le problème. Ça, c'est la pensée du monde. Eh bien, le chrétien, non. La loi, elle disait non, change d'attitude. C'est un exemple parmi d'autres. Elle donnait aussi d'autres exemples pour ne pas dévaster aussi la nature. Par exemple, pas prendre une mer avec les petits pour les oiseaux. Il paraît que chez les juifs, c'est le plus petit commandement. Ils ont peut-être classé tous les commandements, je ne sais pas. Il y a avoir un regard sur le prochain, une réaction, donc le dégoût pour le péché, et puis amener aussi l'autre à avoir la soif du pardon, la soif de la justice, la soif de la purification, être pur. Les hommes se complaisent parfois dans l'impureté, mais ça fait du bien de se sentir pur, pur dans ses pensées. Fuir les convoitises. L'apôtre Pierre parle des convoitises, c'est aussi de fuir les convoitises. Ça rappelle donc notre nature humaine, mais ça rappelle aussi que si on se livre à nos convoitises, eh bien, nous perdons la paix avec Dieu. Le Seigneur Jésus, lui, a donné l'exemple parfait de service, serviteur jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il nous a donné l'exemple. Fuir les convoitises, c'est-à-dire être saint. Alors, ce n'est pas au sens catholique, c'est au sens biblique. C'est possible d'être saint, et c'est un encouragement. Sanctifiez-vous, dit la parole. Se sanctifier, ça veut dire mettre de côté les choses qui sont mauvaises. Faites mourir les choses qui sont sur la terre. On peut rappeler qu'être tenté, ce n'est pas péché. Par contre, il ne faut pas continuer quand on est tenté, il faut s'éloigner des tentations. C'est ça, avoir, réagir. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? L'adversaire veut nous tenter. L'adversaire veut nous accabler aussi. C'est pour ça que je dis être tenté n'est pas un péché. Mais par contre, jouer avec la tentation, ça c'est un risque, ça c'est mal. Il y a des endroits où il ne faut pas traîner. C'est un collègue catholique d'ailleurs qui m'avait dit dans la rue, parfois on prend un bol de boue en pleine figure, parce que c'est peut-être un peu moins grave qu'à une certaine époque, mais il y a parfois des affiches qui sont sales, et puis même sur Internet, quand on va sur Internet, tomber parfois sur des sites, ça m'est arrivé de chercher des messages d'Apozzo sur Internet, je pense que vous connaissez d'Apozzo, hein, le prédicateur évangéliste. Je suis tombé sur de la pornographie. On tourne la page, mais je veux dire, on en prend en pleine figure. Ben après, il faut se laver. On ne l'a pas cherché, mais il faut se laver. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le Seigneur permet aussi certaines choses, mais on en trouve partout maintenant de la corruption. Pour d'autres, ce sera l'amour de l'argent. Enfin, il y a toutes sortes de tentations. S'éloigner. Il y a des mauvaises habitudes, je les évoquais tout à l'heure. Le chrétien est appelé à faire mourir le vieil homme en se souvenant de la croix. Le Seigneur Jésus a payé cher le prix de notre salut. Il y a les épreuves donc intérieures qui sont lourdes. On peut être tout seul et avoir des épreuves, mijoter, on peut avoir des mauvaises pensées tout seul. Eh bien, se tourner vers la parole. Il y a des choses simples à faire, éventuellement aller échanger avec quelqu'un, sortir de sa solitude. C'est peut-être pas toujours possible. Quelqu'un qui est en prison, il peut avoir des expériences difficiles à cause de son isolement. Et puis, Les épreuves extérieures, c'est la persécution. En France, il n'y a pas encore la persécution ouverte. Elle peut venir. Elle peut venir du gouvernement. Dieu connaît toutes choses, mais nous sommes appelés à nous préparer, à avoir les idées claires sur certaines choses pour ne pas nous laisser embarquer. Parfois, on peut être naïf aussi par rapport à certaines choses. Faisons attention. Nous sommes appelés à servir le Seigneur, à servir le Seigneur Jésus-Christ. Notre service peut nous sembler parfois dérisoire, peut nous sembler faible, mais Dieu le connaît. C'est un encouragement pour nous. Dieu voit chacun de ses enfants, de ses serviteurs. Il est dit de ne pas faire les choses pour être vu des hommes, mais pour être vu de Dieu. La pauvre veuve qui mettait quelques pièces comme son offrande, bien le Seigneur Jésus l'a vu. Et il a dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Et elle a peut-être fait sauter plus qu'un repas. Certains disent juste un repas. Oui, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Et on sait qu'il y en a bien des gens qui ont donné beaucoup pour le Seigneur. Et le Seigneur connaît toutes choses. Avant tout, c'est la foi qui est un encouragement. Dieu connaît les cœurs. Le Seigneur Jésus a parlé de ceux qui priaient dans le temple. Deux hommes montèrent pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. La prière du publicain, elle est encourageante. C'est une des prières les plus courtes de la Bible, je crois. Sois apaisé envers moi, pécheur. Mais le Seigneur Jésus a dit, cet homme descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Et quand le Seigneur Jésus dit plutôt que l'autre, c'est-à-dire que l'autre ne l'a pas été. On peut relire pour terminer dans Colossiens au chapitre 3, deux versets, les versets 23 et 24. Colossiens 3, versets 23 et 24, ça s'adressait à plusieurs catégories de personnes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.